avec Jean-Claude Servet au festival BD Boom. Bonjour.
Bonjour.
Alors on va s'intéresser tout d'abord à l'album Le Dernier Brame qui est sorti récemment chez Dupuis. Est-ce que vous pouvez nous présenter cet album pour ne pas dévoiler tous ces mystères ?
Non, bah le titre dit déjà le thème de l'histoire, donc c'est le dernier Brame. Le Brame, c'est la période de reproduction du cerf, des cervidés, et c'est aussi le cri du cerf à ce moment-là. Je voulais raconter cette période qui est vraiment un événement dans la forêt. Le cerf, c'est le roi de la forêt. C'est un événement que l'on vit, nous, dans les Ardennes belges chaque année. Et il y a pas mal de gens qui vont écouter le Brame. Donc c'est vraiment le cycle de la nature qui revient. Et je voulais faire une histoire autour de ça parce que je possédais pas mal de livres qui étaient écrits par Jean-Luc Duvivier de Fortan, qui est un ami, qui est le spécialiste du Brame en Belgique. Et je voulais raconter ça, mais bon, en bande dessinée, on ne peut pas faire un documentaire animalier. Il faut qu'il y ait du texte, il faut qu'il se passe quelque chose. Et j'ai imaginé une métaphore, comme ça, entre un personnage qui est écrivain, qui est un grand écrivain célèbre, comme le grand cerf, qui est le dominant de la forêt sur ses biches. Et dans mon histoire, ce grand écrivain est dominant sur son public féminin, et j'ai imaginé une histoire d'une femme admiratrice de cet écrivain qui se soumet à ce personnage qui profite de la situation. Et bon, je ne veux pas tout vous dévoiler, mais je fais des liens avec le monde, le cœur de la forêt et les cerfs, et ce fameux écrivain. Et puis je fais revenir quelques années après la fille de cette femme. Et là, bon, je ne vais pas tout vous raconter, mais j'ai pu, grâce à cette conception d'histoire, mettre en scène et raconter tout le rituel du Brame, du cerf, dans la forêt.
C'était donc très très important de choisir des cervidés, parce que c'est quelque chose qui revient assez souvent dans vos histoires. Est-ce que vous étiez fasciné par l'animal depuis des années, ou est-ce que c'est plus facile à mettre en scène de par le cycle de vie de ces animaux-là ?
En fait, je voulais faire de l'animalier, parce que lorsque je dédicace, j'ai souvent l'écho du public, et il y a pas mal de gens qui me disaient, notamment dans le dernier album, l'album précédent que j'avais fait sur l'abbaye d'Orval, là c'était vraiment plutôt un récit historique, mais j'avais quand même mis un petit côté fantastique en mettant des loups qui tournaient autour des ruines de l'abbaye, donc ça donnait tout un climat. Il y a beaucoup de gens qui me disaient « Ah ben j'ai bien aimé tes loups dans l'abbaye ». Donc il y avait vraiment une accroche à ce niveau-là. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de plaisir à dessiner des animaux. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée, qui était en gestation depuis des années, de mettre en scène le Brame.
Alors là, c'est vraiment en parallèle, à la fois la vie du cerf et la vie du faon jusqu'au cerf dominant. Souvent, dans vos bandes dessinées, les personnages vont soit se transformer en animal dans leurs rêves ou en réalité, enfin en réalité quand c'est un peu fantastique, soit vivre complètement comme l'animal. Est-ce que là, c'était une volonté de faire vraiment un parallèle, mais de jamais transformer l'homme en animal ?
Non, ici, c'est un récit humain, donc le côté fantastique... si, le côté fantastique du rituel du Brame, forcément, ça reste, mais c'est quelque chose qui existe. J'ai fait d'autres récits qui sont beaucoup plus fantastiques, avec des sorcières qui se métamorphosent en loups et des choses comme ça. Ça vient de la tradition populaire, des contes et légendes d'Ardennes, de Lorraine, enfin certainement d'autres régions de France que je ne connais pas, mais de toute façon, c'est les mêmes sujets qui reviennent. Et j'aime bien dans ma production d'avoir une alternance, de travailler dans le fantastique, à un certain moment, et puis après, revenir dans de l'historique, passer dans l'humain, passer dans le côté nature. J'ai fait aussi un policier sur le monde des apiculteurs, La Petite Reine chez Casterman, il y a des années. J'ai fait Lova, une histoire d'enfant loup. Donc là, c'est un petit peu la même démarche ici avec le Brahme, mais j'ai fait les contes de la Tchalette, là c'est des contes de magie et de sorcellerie, j'ai fait Déesse Blanche, Déesse Noire, là j'ai revisité un petit peu tous ces contes, mais d'un côté plus moderne, j'ai fait l'Almanach chez Casterman, qui sont des contes plus adultes, plus sorcellerie. J'habite dans le sud de la Belgique, ma région est entourée de forêts. C'est une toute petite région qui se trouve en dessous des Ardennes belges, c'est la Lorraine belge, et voilà, donc je vis dans cette ambiance-là, et je m'intéresse à ma région, donc j'ai pas mal de livres, je m'informe, et tout ce qu'il y a comme littérature, ben c'est des fois des guides, des histoires de guerre, ou des histoires de contes, c'est un petit peu tout ça, et tout ce patrimoine se trouve dans une bibliothèque dans mon atelier, et je vais piocher en fonction de mes envies, puis j'essaye de rythmer, de ne pas faire deux histoires fantastiques d'affilée ou deux histoires historiques d'affilée. Et je remarque que lorsque je fais des séances de dédicace avec le public, je discute un petit peu pour prendre la température, parce que c'est pas toujours évident. On fait d'abord la bande dessinée, on l'écrit pour soi, en étant conscient que ça va être lu par d'autres, évidemment, hein, mais on ne sait pas toujours comment ça va être perçu. Et ce qui est étonnant, c'est que bon, il y a des fois des titres où tout le monde est d'accord. Bon, cet album-là, c'est mon préféré et autres. Mais il arrive des fois, par exemple, Déesse Blanche, Déesse Noire, il y a des gens qui vont dire, j'ai adoré cet album. Et puis, la personne qui se trouve derrière va me dire totalement le contraire, en disant, non, j'ai préféré des récits plus historiques ou plus faits divers. Donc, c'est une question de sensibilité. Il y a des gens qui ne rentrent pas dans le fantastique, qui disent, bon, j'ai accepté ton histoire jusqu'à un certain point, et puis quand ça a basculé dans le fantastique, je ne t'ai plus suivi. Et il y en a qui vont dire, ah oui, c'est à ce moment-là que ça devenait intéressant. Mais c'est ça qui est bien, et j'ai cette chance de pouvoir toucher un peu tous ces domaines-là qui sont différents, parce que j'ai un public qui m'est fidèle et que je fais cette alternance. Donc si je faisais trop dans le fantastique, je serais catalogué auteur fantastique, et historique, c'est pareil. Donc c'est cette alternance, et il y a quand même cette unité de lieu, cet univers qui est quand même le mien, et qui sort de ma personnalité, de mes envies et de ma région.
Oui, je crois qu'on peut dire que vous êtes avant tout un conteur.
Oui, c'est ça. C'est le fait de raconter des histoires. Et j'essaye de trouver ces histoires dans mon environnement. Je ne vais pas chercher bien loin parce qu'il se passe tellement de choses. Mais évidemment, c'est mis à ma sauce. Hein. C'est ça qui fait toute la création et toute la magie de mes bandes dessinées.
Là, il y a quelque chose que je trouve particulièrement intéressant au niveau du dernier Brahme. C'est d'avoir choisi une proie. Certes, c'est vrai que le cerf est très imposant, a plein de choses pour lui et un cycle de vie sur cette espèce-là qui est aussi intéressante à mettre en parallèle justement avec un homme qui est quand même très pas agressif mais très fort hein, et dominant sur tout le monde. Mais c'est vrai que prendre par exemple un groupe de prédateurs, ça aurait peut-être encore plus fait apparaître sa personnalité dominante. Si ça avait été un loup, il aurait été plus fort sur les autres hommes. En même temps, c'est vrai que ça aurait pas été possible parce qu'il y aurait eu un couple dominant, donc
oui. Ça n'allait pas. Ici, c'est bon. Le Brahme, c'est quoi? C'est une histoire de combat de mec. Hein. La période est très courte, de reproduction est très courte, donc c'est le cerf dominant, celui qui aura vaincu, qui aura éliminé tous ses adversaires, qui va pouvoir procréer. Et c'est sa semence qui sera la meilleure, parce que c'est lui le plus puissant. Donc c'est cette image-là que j'ai voulu montrer à travers ce côté humain, et à travers ce personnage de cet écrivain qu'on met sur un piédestal et qui a été dominant à une certaine époque, mais qui est en train de ravaler, comme on dit, c'est un terme qu'on utilise dans ces milieux forestiers, parce que j'ai mis pas mal de termes hein, qui correspondent à ça, mais il y a un lexique à la fin pour expliquer quand même. Bon, il n'y en a pas trop, mais c'est ce qui est intéressant, c'est d'apprendre des choses aussi dans les bandes dessinées. Moi j'en apprends, et c'est pour ça que j'essaye de les communiquer comme ça. Et ce personnage est en train de régresser, donc la domination, elle a existé à un moment. Donc c'est vrai que ça donne un côté humain aussi à l'histoire, parce qu'on peut avoir été et puis régresser, c'est inévitable, c'est comme ça que la vie tourne.
Au niveau du dessin, qu'est-ce que vous aimez particulièrement représenter, et qu'est-ce qui vous pose particulièrement problème ?
Ben, j'adore dessiner la forêt, j'adore dessiner les animaux et j'adore dessiner les femmes. Donc, j'aime bien dessiner certaines architectures, comme dans cette bande dessinée, Le Dernier Brame, j'ai dessiné un château. J'ai plus de mal à dessiner des architectures, évidemment, je ne peux pas lâcher mon trait de la même manière. Mais bon, je l'adapte, et puis ça passe à travers ma main, et ça devient un dessin à la cervelle, quoi. Ce que j'ai horreur de dessiner, c'est des villes trop rectilignes, dessiner des bagnoles et des choses comme ça, c'est pas mon truc. Mais il est évident que je dois en dessiner en fonction de certains scénarios que j'écris. Quand j'écris, j'écris pour l'histoire. Bon, sur des thèmes que j'aime bien, évidemment. Mais il y a certaines scènes, j'ai pas vraiment envie de les dessiner, mais il faut quand même bien les faire. Donc je n'ai qu'à me débrouiller pour les dessiner. Je m'en sors toujours quand même, mais il y a certaines scènes, je me demande comment je vais pouvoir les réaliser, parce que je me lance des défis de ce côté-là. Mais c'est vrai que si je fais des planches avec des voitures et des choses comme ça, c'est peut-être pas mes plus belles planches. Mais maintenant, je commence à avoir une certaine application pour ça. Et j'arrive à mieux les dessiner que ce que j'ai qu'à une certaine époque. Et maintenant, en travaillant par technique de dessin au crayon et de couleur à l'ordinateur, sur des thèmes comme ça, sur des sujets comme ça, avec les voitures ou des décors de ville trop rectilignes, ça passe beaucoup mieux que quand je dessine à l'ancienne, à l'encre de Chine, avec couleur aquarelle.
Est-ce qu'il y a un animal que... vous n'aimez pas du tout dessiner, qui vous, enfin, ou qui est vraiment trop compliqué à aborder.
Compliqué. Ben, je dessine des animaux de ma région, évidemment. Hein. Bon, j'aime pas trop dessiner des serpents, des choses comme ça. Je préfère un cerf, un loup, une biche, bon, une vache. Bon. Exceptionnel, ça n'a pas d'élégance, ça n'a pas la majesté d'un cerf, ça c'est clair. Alors, on peut pas sortir un beau dessin de vache, mais bon, ça fait partie du décor. Bon, c'est un côté sympa une vache, mais un cerf, ça donne autre chose.
Oui, c'est un peu ce que j'attendais en fait. Au niveau de la technique de dessin, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Ben, j'ai changé depuis quatre albums de technique. Donc avant, c'était des planches qui étaient réalisées à l'encre de Chine. Et on tirait une épreuve qui s'appelait le bleu de coloriage. Donc on tirait un film offset sous cello. Donc je travaillais dans un format plus grand, mais qui n'était pas encore vraiment immense. Donc on faisait cette épreuve avec un passage sur papier d'aquarelle. Et la mise en couleur se faisait sur ce papier d'aquarelle. Et c'était imprimé en gris bleu, avec le cello offset qui revenait par-dessus. Et comme ça, on avait le dessin définitif. Mais il y avait de temps en temps un décalage entre le trait et la couleur. Maintenant, je travaille dans d'autres techniques. C'est-à-dire que je vais faire un brouillon de ma page au crayon. Et je vais le silhouetter par projection dans un format beaucoup plus grand. Et je vais faire le dessin définitif au crayon. Ça va être scanné. Et ça va être envoyé sur la boîte de réception de mon coloriste, qui est Guy Rêve, qui fait de la bande dessinée aussi, chez Casterman. Il va réaliser la mise en couleur sur base d'indications que je vais lui fournir avec des photocopies de mes planches et des documents photos que je possède. Donc là, le dessin étant au crayon, Guy Rêve va monter les noirs pour qu'on oublie un peu ce côté crayon et que ce soit quand même lisible, et on peut augmenter le noir par zone en le cernant à l'ordinateur, et c'est pour ça qu'on a des fois des aplats de noir qu'on croirait être de l'encre de Chine, mais c'est du crayon. Il va réaliser la mise en couleur, et puis il m'envoie ça sur ma boîte de réception lorsqu'il a terminé, puis on en discute. Et ce qui est vraiment très intéressant de travailler dans cette technique-là, bon, c'est que moi, je vois directement les couleurs qu'il a faites, et on peut corriger, parce que avant, quand il fallait retravailler sur du papier d'aquarelle, c'était un problème, donc je laissais passer certaines choses que ici, quand même, j'essaye de vérifier, mais de toute façon, on travaille en confiance, en complicité, c'est vraiment que des bricoles, hein. De temps en temps qu'il oublie un truc ou l'autre. Ou alors des fois qu'il n'y lit pas toutes mes informations et qu'il se trompe de saison sur une case, ça c'est arrivé, mais enfin bon, il faut toujours surveiller. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, le dessin fait partie intégrante de la mise en couleur sous cette forme-là. Tandis qu'avant, on avait plus l'impression que c'était du dessin noir et blanc qui avait été colorisé. Ici, on a presque l'impression que c'est de la couleur directe. Parce que justement, on laisse certains traits de crayon un peu gris qui rentrent dans la couleur et puis qui traversent la couleur, qui donnent une matière. parce qu'il y a des grilles que je me laisse dans le dessin, et c'est ça que ça donne vraiment cette patine dans la couleur. Et surtout, ce qui est très très intéressant, c'est que la couleur qui est sur l'ordinateur, quand elle est transformée en encre d'imprimerie, c'est la même chose. Ce qui n'était pas le cas quand nous avions des couleurs aquarelles, et que ça passait en encre d'imprimerie, c'était pas du tout la même chose. Il y avait toujours un décalage. Par exemple, le rouge primaire en aquarelle, c'est le rouge vermillon. En encre d'imprimerie, c'est le rouge carmin. C'est pas du tout le même rouge, hein. Alors, il fallait chaque fois adapter, et il y avait toujours une trahison au niveau des couleurs quand on utilisait certaines couleurs qui étaient trop différentes. Il y en a qui passaient très bien, mais d'autres, c'était un peu délicat. Et ici, maintenant, avec l'ordinateur, bon, j'assiste encore à l'impression, mais je n'ai plus grand-chose à rectifier, et le résultat est bon, quoi.
Un petit mot sur l'ambiance du festival, hein, qui a commencé hier.
Je n'ai pas encore travaillé, je suis arrivé hier soir. Donc j'ai assisté au concert de Gibra, de Jean-Claude Denis, qu'est-ce qu'il y avait encore ? Il y avait Emmanuel Moineau et puis Berberian. C'était vraiment très très chouette. Donc à peine arrivé, pop, j'étais bombardé là, mais ça mettait dans l'ambiance, puis on a mangé un petit coup après. Ce matin, j'ai visité les expos, et franchement, c'est vraiment fameux, hein. Béatrice Tillier, c'est superbe. Et puis je suis allé voir Gibra aussi, vraiment. C'est intéressant pour nous auteurs de voir les originaux des autres, parce que on comprend les choses différemment. Et voilà, bon, au niveau de l'accueil, ça reste toujours très très agréable. Au niveau du public, après l'interview, on va me lancer dans l'arène, on verra bien si je vais être mangé tout cru ou pas. Mais bon, non, en général, ça se passe bien. J'ai toujours un bon public et je suis pas inquiet à ce niveau-là. Puis il fait beau, c'est une chouette ambiance. C'est super bien organisé. Et je pense que c'est populaire aussi. Forcément, il y a des collectionneurs, ça on peut pas les éviter, et puis ils ont leur place aussi. Mais il faut pas non plus que le festival ne soit fait que pour les collectionneurs. Il faut qu'il y ait, pour que le monsieur tout le monde ait la possibilité d'approcher de certains auteurs et de découvrir. Ça, c'est ce que je regrette un peu dans pas mal de festivals, c'est qu'on n'a plus cette possibilité-là. Mais ici, je pense que tout habitant de Blois ne peut ignorer qu'il y a un festival de bande dessinée. Les affiches sont partout, donc on voit que la ville vit autour du festival et que c'est pas une simple séance de dédicaces. Moi, en Belgique, il y a certaines dédicaces qui sont organisées dans des halls sportifs ou quoi. Il n'y a aucune affiche, rien du tout, une petite flèche, dédicace, point par là, quoi. Mais il suffit de mettre sur internet qu'il y a une séance de dédicace, hop, il y a autant de collectionneurs qui viennent, et puis ça remplit le festival, quoi. Mais moi, je vois pas l'intérêt de ce genre de truc, hein. J'ai pas à aller faire des dessins pour ces gens-là à la chaîne, comme ça, s'il y a même pas d'échange, ça arrive, hein, des fois comme ça, il y en a qui sont juste là pour avoir leur dédicace en plus, c'est comme un dû. Non, ici, dans certains festivals, on voit que lorsqu'on fait une dédicace pour les gens, qu'on discute un petit peu avec eux et tout, ils sont contents, ils disent merci et tout. Mais à certains festivals, c'est pas ça, hein. Mais ça, je les connais, ces festivals-là, j'y vais plus.
Justement, au niveau des dédicaces, vous laissez le choix aux gens de vous demander éventuellement un personnage ou...
Je propose certaines choses. Parce que, faut venir voir en Flandre ou en Hollande. Dans certaines séances de dédicaces, les gens ont le doigt dans la rayure de l'album, ils ouvrent l'album, dites monsieur, je voudrais bien que vous me refassiez ce dessin-là. Un dessin que vous avez passé l'après-midi en atelier à réaliser, ils veulent que vous redessinez ça. C'est hallucinant. Mais il y a certains auteurs qui acceptent de le faire, ça je comprends pas. Ah non, parce que moi, non, c'est moi qui décide. Et s'il y en a qui sont pas contents, ah non, parce qu'en fait, une dédicace, c'est une rencontre entre un auteur, et je discute avec les gens. Ça, c'est important. Et puis, je leur fais une griffe. Mais je leur fais pas une illustration. Mais je suis atterré quand je vois certains auteurs qui sont là avec leur boîte d'aquarelle, leur encre de Chine, leur truc qui font le dessin en crayon. Pète pas un mot. Puis les gens attendent. Mais c'est quoi ça? On n'a pas à donner une aquarelle. Et puis, de toute façon, moi, je ne saurais pas travailler dans une ambiance comme ça. Moi, il faut que je sois dans mon atelier. Et puis, je suis habitué de travailler à l'ancienne en dédicace. Hein, les anciens travaillaient au gros marqueur, tiens, qu'on avait du monde, j'ai toujours du monde en dédicace, donc j'essaye de faire plaisir à tout le monde. Voilà, mais je vais vous raconter une anecdote. à propos de certains collectionneurs. C'est les Belges, hein, je vous rassure, les Français, ça va mieux. Ça se passe mieux. J'ai été à la côte belge il y a quelques années, et forcément la côte belge, c'est plus la bande dessinée flamande qui passe, mais il faisait une semaine quand même dans le festival, ça durait sur 15 jours, 3 semaines. Ce festival, c'était assez long, et il y avait quand même un week-end bande dessinée francophone, donc j'y allais, et il n'y avait pas un grand monde. Et les collectionneurs de Bruxelles savaient très bien qu'ils avaient accès aux dessinateurs plus facilement et qu'ils pouvaient repasser plusieurs fois et exiger des choses. Et j'avais quand même du monde, et j'entendais deux gars qui discutaient entre eux. « Ah, moi j'ai eu Loisel à tel festival. Ah ben moi j'ai eu Julliard à tel autre. » Vraiment le tableau de chasse, hein. Et puis ils parlaient de ça, bon, c'est un peu un minéralé. Et lorsque je fais une dédicace, le lecteur me donne le bouquin. Pendant 30 secondes, je ne dis rien parce que il faut que je griffe ma feuille pour commencer à construire le visage que je vais dessiner. Et puis, je lève mon regard et je discute avec la personne. Donc, arrive le tour du premier de ces deux-là qui continue à discuter. Donc, ils étaient l'un derrière l'autre dans la file. Donc, le premier me donne le bouquin. Et puis, bon, hop, je commence. Puis, j'entendais bien qu'ils continuaient à discuter. Puis, je relève la tête pour regarder. Il me tournait le dos et continuait à discuter avec son copain. Et à l'époque, je dessinais avec un gros crayon, un gros porte-mine. Là, ils avaient compris, il a ramassé dans l'omoplate. Hein. Oh bah oui, enfin, je ne l'ai pas fait méchamment, je l'ai fait en dérision. Je regrette de ne pas avoir tapé plus fort. Mais non, c'est vraiment du mépris, ça, je suis désolé. Il ne regardait même pas ce que je faisais.
Alors que
donc c'était le tableau de chasse. Ouais. Ah non, alors quand vous avez des cas comme ça, vous comprenez beaucoup de choses. Et ce que moi je ne comprends pas, c'est que certains auteurs acceptent de faire ce que des emmerdeurs qui vont aller revendre sur eBay. C'est hallucinant. Je crois que chaque auteur doit filtrer son public, et on a un peu le public qu'on mérite. Et moi j'ai cet avantage-là de... J'ai dressé mon public, ça c'est vrai. Tous ces emmerdeurs-là... Eux, ces emmerdeurs-là, m'appellent le bâcleur, parce que je fais des dessins très rapides et je n'accepte pas leurs exigences et ne viennent plus près de moi. Je suis débarrassé. Et ça laisse l'accès à un véritable public qui vient pour discuter, qui vient et qui est content d'avoir une petite griffe. Chez moi, dans ma région, j'ai tellement de monde, parce que je suis très connu en Belgique, surtout dans le sud, là, je fais même plus de dessins, j'ai pas le temps, parce qu'il y a trop de monde. Donc je mets juste un petit mot et je discute un peu avec la personne. Voilà. Donc, dans certains festivals, c'est impensable. Hein. Je fais jamais ça quand je suis en festival avec d'autres. Hein. C'est quand je signe une nouveauté tout seul, quoi. Mais ici, pour le dernier, je faisais quand même un petit dessin. Je faisais deux champignons très rapides. Ça va très très vite. Et les gens sont contents d'avoir une griffe. Voilà. Ça, c'est le vrai public. Ceux qui exigent d'avoir un détail... Parce que j'ai eu le cas aussi à la Foire du Livre à Bruxelles il y a des années. Je me dépêchais pour faire, avant la fermeture, faire des dessins à tout le monde. Tout le monde. Il y en a un qui est revenu l'année suivante. « Dites, monsieur, je vous ai ramené le dessin, vous n'avez pas eu le temps de l'achever l'année dernière. »
Ah, il faut oser.
Ah, mais il faut oser. Donc c'est pour ça que là on ne mourra plus. Donc, il faut dresser son public, faut... Forcément, quand on est en dédicace comme ça, on montre son beau côté et tout ça, mais il ne faut pas se laisser bouffer non plus. Voilà. Et ça, de ce côté-là, je suis très strict. Et même dans ma vie chez moi, je travaille la journée, il ne faut pas qu'on vienne m'embêter à ce moment-là et tout ça. Non, je suis très... J'ai vraiment mis des barrières et j'ai géré ma famille aussi pour ça. Mais je suis ouvert à tout, mais... Dans les règles, quoi. Qu'il n'y ait pas de débordement.
Vous vous êtes vengé avec le dernier Bram.
Pourquoi ?
Pour l'auteur ?
Avec le personnage.
Pour l'auteur, ah oui. Oui, mais bon, là c'est l'autre côté. C'est. Mais c'est vrai qu'on pourrait très bien profiter de la situation. Hein. Moi, je me suis retrouvé il y a un mois d'ici avec... une jeune qui faisait des études de beaux-arts et qui voulait me rencontrer et tout, très, très jolie fille et tout, mais elle arrivait devant moi, elle sortait pas un mot la pauvre fille, elle est complètement bloquée. Donc vraiment, je me sentais mal à l'aise, moi, parce que je sentais bien que j'avais un pouvoir dominant, surtout que je venais de faire ce bouquin-là, sur elle. Et c'est un peu comme dans mon histoire, où cette jeune fille de 20 ans, c'est la même âge, c'est la même chose, venait tout émue. Je dis, bah, écoute, remets-toi, on se reparle dans 5 minutes, et puis ça s'est bien passé, mais c'est fou, on ne se rend pas compte de ça. Parce que bon, on fait notre boulot, on est quelqu'un comme tout le monde. Oui et non, mais dans la vie de tous les jours, si. Hein. C'est vrai qu'on a un certain pouvoir de créer des histoires avec un crayon et une feuille de papier.
Vous dites que vous avez besoin d'être au calme dans votre atelier quand vous créez. Un petit peu de musique quand même, ou rien du tout?
Si, toujours de la musique. Toujours de la musique, mais des CD, hein. Je ne mets pas la radio pour avoir des nouvelles. Hop, bon, ça dépend. Ça dépend ce que je fais, ça dépend quelle heure. Le matin, je mets quelque chose de très doux, de très calme. J'aime bien ce qui est un peu jazz, un peu blues. J'aime bien la chanson française. Ou alors des Neil Young, des choses comme ça. Ça, c'est de ma génération. Et puis, fin de journée, quand je dessine, je m'autant mettre un bon rock, hein, pour dynamiser la fin de journée. Je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est belge. Donc, il y a des groupes que vous ne connaissez peut-être pas ici, mais qui sont intéressants. Et moi, j'aime beaucoup un chanteur. Ben, vous devez connaître Arnaud. Moi, j'aime beaucoup Arnaud, mais je ne peux pas écouter Arnaud à 9h du matin. Ça ne passe pas. Non, je vais mettre le matin quelque chose de vraiment très, très doux. C'est vraiment une entrée en matière. Et puis, Arnaud, je vais le mettre à 4-5 heures, quoi. Et ça, j'ai des rythmes comme ça. Et j'ai mes CD, et je les mets un peu, quand je réalise un album, ben je mets un peu souvent les mêmes CD, et je suis habitué, et ça fait mon univers. Quand j'écris, là c'est différent, j'ai une cabane au fond des bois, là j'écoute le chant des oiseaux.
Une bande-son à proposer en lisant le dernier Brahms?
Ce n'est pas sorti en France, mais il y a une édition spéciale en Belgique, avec une création musicale, qui a été faite, c'est dommage qu'elle ne soit pas sortie en France, mais je ne sais pas, ils se sont pris trop tard. C'est un producteur francophone, qui est originaire de ma région, mais qui est sur Bruxelles, qui m'avait contacté pour faire une création musicale sur un de mes albums. Je dis, je suis en train de travailler sur le Brahms, j'étais en train d'écrire l'histoire à ce moment-là, et de faire un parallèle, quoi. Finalement, le groupe qui a été choisi, c'est un groupe flamand, qui est très connu côté néerlandophone et Hollande, mais qui veut se faire connaître du côté francophone. Et il y a eu un échange. Moi, j'envoyais les photocopies de mes planches au fur et à mesure. Et eux ont fait une création d'une douzaine de morceaux, des morceaux musicaux, des morceaux chantés. Il y a une chanteuse qui chante très très bien. Et le CD était dans l'édition spéciale avec une sérigraphie qui se trouvait... une sérigraphie, un tirage spécial, avec un frontispice, donc c'est un ex-libris qui est inclus dans la reliure, et le CD était collé sur la couverture arrière. Et le CD vit sa vie séparément, sous une forme normale, avec un petit livret qui reprend certains de mes dessins. Alors bon, il y a des sons de Brahms, du cerf, qui sont intégrés, puis la musique reprend, mais c'est pas des sons uniquement d'ambiance, c'est vraiment de la création musicale. Et on peut écouter le CD sans connaître du tout l'histoire. Mais c'est le thème du Brahms qui a été repris, avec les noms de mes personnages, et quelques anecdotes, et certaines références à l'histoire et à mes personnages.
Le nom du groupe?
Le Grand Bateau. Le Grand Bateau, ça c'est pas un titre flamand, mais je pense qu'il y a moyen d'aller voir sur internet Le Grand Bateau et vous découvrirez ça. Et c'est vraiment des gens très très sympas, ce sont des jeunes et ce sont des gens qui aiment la nature, qui veulent découvrir la région aussi. La chanteuse a vécu sa jeunesse à Arlon, c'est tout près de chez moi, donc elle n'a pas vraiment l'accent flamand quand elle chante. Il y a rien contre l'accent flamand, mais comme ils veulent se faire connaître côté francophone, on ne dirait pas qu'ils viennent du nord du pays, quoi. Donc ils se sont vraiment assimilés à notre culture, et c'est une culture universelle. Hein.
Pour terminer nos interviews, cette année, on a une question qui est plutôt une sorte de rêve impossible. C'est-à-dire que si on vous donnait la possibilité de collaborer avec un artiste ayant existé, quel que soit le domaine artistique, vous n'êtes pas obligé de vous cantonner à la bande dessinée. Qui serait cet artiste, donc décédé, et quel serait votre projet?
Disons que moi je me sens assez proche d'un Pagnol, par exemple, qui lui a chanté la Provence, comme moi je chante la Gaume. Je pense qu'on aurait eu assez d'affinités pour faire quelque chose, mais chacun dans son monde, dans son univers. Moi je vois plutôt ça dans ce sens-là. Moi j'ai toujours rêvé de faire du cinéma aussi, donc bah, lui il écrivait et puis le cinéma s'est fait par après. Ça pourrait... Oui, c'est un personnage que j'aurais aimé rencontrer, mais bon, rêve impossible de faire un projet avec lui, c'est parce que je sens une certaine affinité. Sinon, rêve impossible, c'est peut-être de trouver quelque chose de différent avec quelqu'un qui pourrait vous amener à faire autre chose. Mais bon, ça comme ça, vous prenez un peu court, là. Enfin bon, voilà ma version.
Ok, merci beaucoup.
Ben, c'est moi qui vous remercie.